CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Welcome to Fukushima. C'est le film de Alain Dehaeleux qui va être projeté ce soir à 20h30 à la maison des associations de Montauban. Et figurez-vous, eh ben, qu'on a le plaisir d'avoir Alain Dehaeleux avec nous au téléphone. Alain, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous pour parler de ce film. Je rappelle que vous serez présent à la projection ce soir.
Ouais, c'est un plaisir d'être dans la région, là. Quelle belle région.
Ah, bah, en plus, vous tombez bien, il fait beau.
Ouais, ouais. Bon. Dommage que des petites taches comme ça dans le paysage. Ouais, donc, des grands panaches de fumée.
Bah, c'est-à-dire que, comme ça, quand vous venez ici, vous êtes toujours un peu dans l'ambiance, quoi, avec Golfech, quoi.
Ouais, c'est ça. Vous... En arrivant en avion, je voyais les panaches de très loin d'ailleurs.
Ah oui.
La centrale bien avant d'atterrir.
Alors, vous en êtes pas à votre premier documentaire hein, sur le nucléaire et ses effets, puisque vous avez fait Tchernobyl Forever, les récits de Fukushima, Message in the Bottle, RAS.
Ouais. Et puis Antoine Citoyen, ça il y a peu de gens qui connaissent, mais en fait j'ai commencé par faire Antoine Citoyen, qui était une série internet de 20 épisodes, parce que j'avais eu tellement la trouille suite à l'annonce d'un quasi-accident en Suède en 2007, et j'avais eu tellement la trouille que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, et j'avais fait une série internet assez comique, comme ça, avec un personnage qui va dans la rue, qui demande aux gens s'ils sont pour ou contre le nucléaire, et quand les gens me disaient qu'ils étaient pour le nucléaire, je leur disais « Super, alors j'ai un papier ici, est-ce que vous pouvez signer ?» Parce qu'on cherche des volontaires liquidateurs anticipativement, parce que si ça pète, il faudra du monde pour aller reboucher le trou. Et donc les gens qui étaient pro-nucléaire se disaient « C'est quoi cette histoire ?» et tout. Et ils réalisaient soudainement que si on est pour cette énergie, il faut aussi être un peu responsable et assurer en cas d'accident. Enfin, moi, j'avais commencé ma carrière dans le nucléaire comme ça, disons.
D'accord. Et quand je pense que Fukushima, ça a été quand même vraiment la catastrophe qui s'est mise au grand jour médiatiquement, on a vu les explosions un peu d'ailleurs comme on avait vu tomber les tours des World Trade Center, quoi. Hein, ça a marqué médiatiquement. Comment vous l'avez vécu ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit justement en étant impliqué à ce point-là quand Fukushima est arrivé?
Ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, je venais de terminer Tchernobyl Forever, qui était un film que j'avais fait pour le 25e anniversaire de Tchernobyl, et je m'étais dit bon là maintenant ça fait 5 ans que je suis dans le nucléaire, basta, j'arrête, j'en ai marre, je sors du nucléaire. Et puis 2 semaines après la fin de mon mixage, je reçois un message d'un ami qui me dit « Alain, t'as vu à la télévision, il y a une centrale nucléaire qui a explosé ». Et là, ça m'a fait vraiment un grand choc parce que arrivait en temps réel le truc que je redoutais vraiment plusieurs années auparavant, là, en 2007, avec ce quasi-accident qui avait failli arriver en Suède. Et donc, j'ai vu fatalement Fukushima dans 25 ans, puisque je venais d'étudier Tchernobyl 25 ans après. Donc, à peine je voyais ces explosions à la télé, j'ai tout de suite imaginé ce qui allait arriver dans 25 ans. Et j'ai eu froid dans le dos, parce que 25 ans après Tchernobyl, la communauté internationale peine à construire le nouveau sarcophage qui doit protéger l'ancien sarcophage qui est sur le point de s'écrouler. Et on est 25 ans plus tard, on n'a toujours pas réglé le problème de un réacteur en Ukraine. Et donc, fatalement, 4 réacteurs bourrés de combustible, alors qu'à Tchernobyl, il n'y avait plus de combustible dans le réacteur. 4 réacteurs bourrés de combustible au bord de la mer, en zone sismique. Tout de suite, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont régler ce problème? Et je ne sais toujours pas comment ils vont
le régler. Ils ne le règlent pas, figurez-vous, puisque ça se déverse dans la mer.
C'est un scoop. C'est un scoop, ils ne règlent pas le problème.
de l'annoncer. En tout cas, on serait tous contents de savoir comment ils le règlent, effectivement.
Ouais, c'est très grave. En fait, c'est très grave parce que c'est une catastrophe qui est loin d'être terminée. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ça continue à polluer l'air et l'eau. Et que, alors, les gens disent, bon, c'est pas grave, ils récupèrent l'eau contaminée, qu'ils mettent dans des
Non, pas du tout.
Dans des réservoirs. Mais le problème, c'est que l'eau, un jour ou l'autre, terminera de toute façon à l'océan. C'est une loi de la nature, enfin, c'est comme ça. Si c'est dans 50 ans, dans 100 ans ou 200 ans, peu importe, cette eau qui est pour l'instant stockée terminera à l'océan, qu'on le veuille ou non. Et il y a dedans des produits avec des durées de vie tellement longues que c'est pareil si on laissait cette eau aller directement à la mer maintenant ou pas.
Oui, ça changerait pas grand-chose, effectivement. Alors là, vous vous êtes rendu à Minamisoma. Où est-ce que c'est Minamisoma?
Alors, bon, il y a plein de gens qui se sont intéressés à la zone elle-même. Moi, j'y étais, évidemment, parce que je ne résiste pas à aller dans une zone. c'est assez fascinant, puisque, par définition, c'est en dehors du monde, c'est entre parenthèses, donc c'est tout à fait fascinant. Donc, j'étais dans la zone à Fukushima aussi. Mais ce n'est pas ça que j'ai traité dans mon film. J'ai choisi une ville qui se trouve au bord de cette zone, c'est-à-dire qui se trouve juste en dehors, et elle est à 20 km de la centrale. Et elle a été épargnée par le gros de la contamination qui est passée plus à l'ouest. Et donc, cette ville n'est pas trop contaminée, mais elle est toute proche de la centrale. Donc, les habitants n'arrivent pas à se décider, ils sont pas d'accord entre eux, est-ce que c'est un endroit dangereux, est-ce que c'est un endroit pas dangereux, et c'est ça qui m'intéressait, c'était ce côté zone grise. Parce que si je prends un exemple, si la centrale de Golfech pète, les gens qui habitent Golfech, fatalement, oui. Ils ne poseront pas de questions, ils auront à partir. Mais imaginez que le nuage, il touche une première fois, mais très rapidement Toulouse, et puis que les vents dominants poussent tout ça, disons, du côté de Bordeaux. Alors, les gens à Toulouse vont commencer à se demander, il y en a qui vont dire, non, mais ça va, c'est pas très contaminé, on a échappé. Et d'autres qui vont dire, mais t'es fou, tu laisses tes enfants ici, ça. Et donc, les voisins vont commencer à s'engueuler. Et donc, Minamisoma, c'est une ville dont le tissu social a été complètement détruit par la centrale parce que les gens se sont mis à s'engueuler entre eux sur l'état de la situation. En plus, c'était une ville au passé millénaire, puisqu'il y a un festival samouraï qui a lieu là depuis 1000 ans, qui n'avait même pas été interrompu pendant la guerre, et qui a failli être interrompu à cause de la catastrophe. Donc c'est 1000 ans d'histoire remis en question.
Mais alors,
tout ça faisait que cette ville m'intéressait.
Et même vous, quand vous vous rendez sur place, vous n'avez pas peur pour votre santé? Vous ne dites pas, il faut que je m'habille dans une combinaison blanche de cosmonautes pour ne pas être irradié à un moment
Petite anecdote, la première fois que j'ai été en Ukraine, j'arrive à Kiev, j'étais vraiment mort de trouille. Et je suis logé chez des gens qui m'offrent un super repas. J'ai rien mangé. Puis après, ils me proposent une douche. J'ai pas pris de douche. Je flippais de la nourriture, de l'eau et tout. Et puis, bon, on tient comme ça 3 jours. et puis, on mange et on prend des douches. Donc, et alors, c'est là que c'est grave, finalement. Et puis, on s'habitue.
Puis, on se dit qu'il y aura un cancer qui arrivera un jour ou quelque chose comme ça. C'est parce que c'est ça, derrière. C'est, non, c'est
oui, pas... mais à l'époque, j'étais fumeur. Et la probabilité de cancer en fumant la cigarette était quand même assez élevée. Depuis, j'ai arrêté de fumer, donc je compense un vice par l'autre, voilà. Si on peut dire.
Est-ce que vous devenez accro comme ça au
mais rayonnement? J'ai fait des conneries. Oui, de temps en temps, j'ai fait des petites erreurs et je ne sais pas ce que sera l'addition, évidemment. Mais ça, c'est les risques du métier. Mais un jour, j'étais dans la zone industrielle face à Tchernobyl, et c'était l'été, en juillet, et donc il y avait énormément de poussière, et j'étais là pour filmer les travaux du nouveau confinement, donc du nouveau sarcophage, et il n'y avait personne qui travaillait. Donc j'étais vraiment de très mauvaise humeur, j'avais fait toutes les accréditations pour rentrer dans cette zone, etc. Et puis je vois passer au loin un camion, je me dis, bon, bah, je vais au moins filmer ce camion, donc je me mets sur sa route, je mets mon pied caméra et tout, je fais mon plan, et puis je me dis, alors que je fais le cadre, je vois le nuage de poussière qui le suit. Et donc, je me suis dit, aïe, 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 il y a un problème. Évidemment, j'avais des masques et tout, mais quand même. Et donc, j'ai quand même fait mon plan, le camion est passé, je me suis payé tout le nuage de poussière dans la gueule. Quand j'ai pris ma douche, j'ai vu que dans mon nez, il y avait plein de poussière. Donc, là, c'est de la poussière quand même assez dégueulasse. Donc, bon, là, j'ai fait une connerie, mais le restant du temps, j'ai fait très
Vous êtes, quand même prudent, Alain de Halleux, hein, quand même. Parce que avant, on filmait avec des caméras, avec des bandes, et ces bandes, elles pouvaient, si elles étaient en contact avec le rayonnement, devenir toutes noires, enfin être voilées. Aujourd'hui, vive le numérique pour filmer en zone en zone nucléaire, non?
Le numérique aussi.
Ah bon, le numérique aussi, ouais.
Enregistre, bien sûr. Ouais. Les rayonnements gamma attaquent les, impriment leur énergie sur le capteur. Ça revient strictement au même. Il y a aussi des traces. Mais il faut quand même des rayonnements, suffisamment intenses, dans les rayonnements, où moi j'ai été. Ça ne se marquait pas sur les capteurs, mais j'ai un ami, Sacha Koupny, qui était plusieurs fois à l'intérieur du réacteur à Tchernobyl. Moi, j'étais dans le bâtiment réacteur, mais pas dans le réacteur. Lui, il était carrément là où était le réacteur, où là, il y a des doses, mais incroyables. Il est complètement fou d'avoir fait ça. Et là, j'ai vu ces images. Ces images sont vraiment marquées par le rayonnement. Mais là où moi je filmais, ce n'était pas le cas. Donc
bon, tant mieux, parce que comme ça vous êtes là pour aussi qu'on puisse vous rencontrer lors de la projection de vos films. Alors ce soir, donc, c'est Welcome to Fukushima. Ça se passe à Montauban, à la Maison des Associations. Je crois que c'est à 20h30, hein, c'est ça.
Vous me le dites.
Oui, oui, si, si.
Moi, je suis pris en main par des gens très sympas. Ils disent, tu vas là, je les suis.
C'est là. Le film.
Je regarde discrètement le paysage.
Le film est à 20h30. Et puis c'est ensuite, qu'il y a, j'imagine, une discussion qui s'enclenche, avec les spectateurs. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Est-ce que vous, depuis le temps que vous faites ça, Alain de Halleux, il vous semble que les gens prennent de plus en plus conscience? Est-ce que vous rencontrez de plus en plus de gens, ou bien c'est toujours les mêmes, finalement, militants qui se rendent à vos projections?
Les gens ne pensent pas qu'ils mesurent réellement ce qui se passe. Les gens qui viennent à la projection, généralement, sont des gens ou curieux, ou des gens qui habitent près des centrales, qui veulent être informés, ou fatalement des antinucléaires. Donc il n'y a pas de débat au sens propre du terme, et c'est pas ce que je cherche d'ailleurs. Personnellement, j'essaie de sortir des poncifs sur le nucléaire. Fatalement, depuis 6-7 ans, j'ai développé une sorte de philosophie personnelle par rapport au nucléaire et par rapport à la société, parce que penser le nucléaire ou lutter contre le nucléaire, c'est vraiment c'est impossible. On ne peut pas sortir du nucléaire comme ça. Donc la seule façon de faire, c'est de repenser le système dans sa globalité. Et donc c'est très intéressant, parce que alors on se met à discuter justement société, bien sûr alternative énergétique, mais ça c'est finalement une évidence. Bon, il faudra remplacer le nucléaire par autre chose. Ça, c'est de la cuisine. Mais on réfléchit stratégie, comment il faut faire, implication citoyenne, etc. Et ça, c'est totalement passionnant. Et je ne fais pas tout ça pour changer les choses ou pour sortir du nucléaire, parce que je ne pense pas qu'il faille faire les choses pour quelque chose. Je le fais parce que c'est mon plaisir de me battre et de faire des choses. Parce que sinon, à quoi ça sert de vivre, puisqu'on meurt de toute façon? Donc, c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Voilà.
Merci Alain de Halleux, réalisateur de Welcome to Fukushima. C'est ce soir à 20h30 à la Maison des Associations. Un film, une conférence en présence du réalisateur. Merci à vous. Et c'est organisé. Je le dis, par Sortir du Nucléaire 82. Merci à eux aussi. À bientôt.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, 17h30, 19h, à qui le tour? La vie des pays.
Et alors?
Mais enfin, c'est Lénaïque qui fait mal son travail là ce soir, ça va pas du tout.
C'est ça. Qu'est-ce que tu fous, Lénaïque? On a été formé. Hein.
Alexandre Itier est géologue, guide et responsable du site de la plage au Ptérosaure. Mais dites donc, ce soir, moi j'ai vraiment un petit peu de dyslexie là dans la bouche. Donc, des ptérosaures, il y en avait il y a quelques milliards d'années près de Cressac, à Cahors. Enfin, près de Cahors à Cressac. Et on va en parler dans quelques minutes, parce que ça fait... Moi je trouve que c'est une bonne sortie pour le week-end de Pâques. Aller chercher des œufs de ptérosaures.
Ça doit être costaud, ça.
Mmh. Ah, mmh.
Allez, on en parle juste après les infos.
CFM. CFM. Il est 18h. Envie de cuisiner à la plancha ce soir? Arrêtez-vous chez les maîtres du feu. Avenue